Radio FR. Les experts.
Elles sont partout. Les nanoparticules colonisent nos vies. On les trouve dans nos aliments, nos produits de beauté, nos médicaments. Et plus c'est nano, plus c'est costaud, robuste, souple, adaptable. Ces particules plus que minuscules sont peut-être l'avenir de la science. Voilà, en quelques mots, l'intitulé du prochain café scientifique de l'Université de Fribourg. Il se déroulera la semaine prochaine. Ce sera mercredi 20 septembre de 18h à 19h30. On vous conseille de tous vous précipiter au Nouveau Monde. Ce sera très intéressant. Et en plus, l'entrée sera gratuite et des rafraîchissements seront servis à tout le monde. C'est toujours un bon argument pour faire venir du monde. Alors parmi les intervenants qui répondront à toutes vos questions la semaine prochaine, deux sont avec nous ce matin. C'est un honneur de les accueillir. Katharina Fromm, tout d'abord, du département de chimie de l'UNIFR. Bonjour professeur.
Bonjour Mike.
Soyez la bienvenue. Et puis Marc Pochard également, bonjour à vous.
Bonjour.
Vice-directeur de l'Institut Adolphe Merclet. On va commencer par une question toute générale, certainement que beaucoup de nos auditeurs se la posent. Une nanoparticule, c'est gros comment ? Katharina Fromm, peut-être tout d'abord.
D'accord. Alors, scientifiquement, je dirais que ce sont 10 puissance moins 9 mètres. Maintenant, pour s'imaginer quelle taille cela fait, il faut à peu près comparer la taille de la Terre à un ballon de foot environ.
Ah, d'accord. Effectivement, ça nous donne quelque chose de petit. C'est plus petit donc une cellule humaine, même si je comprends
absolument,
bien.
Absolument, oui.
D'accord. Est-ce qu'il y a une différence de vocabulaire entre nanoparticules et microparticules ? C'est pas la même taille, hein ?
Non, c'est une différence de 1000 fois plus petit qu'un micro, une microparticule.
Est-ce qu'il y a moyen d'observer ces toutes petites choses au moyen d'instruments de haute technologie, comme les microscopes électroniques, par exemple ?
Oui, absolument. Alors, on a une limite, on ne peut pas les voir par des microscopes optiques standards, mais il y a d'autres moyens, il y a des microscopes électroniques, comme vous avez dit, qui peuvent vraiment aller dans ces tailles, on peut même visualiser presque des atomes.
Et quand on les voit, c'est des choses qui bougent, ou est-ce que c'est immobile ?
Dans cette méthode-là, on les immobilise pour les regarder. Mais il y a d'autres méthodes où on peut vraiment les voir en live. C'est par exemple les Atomic Force Microscopes, mais c'est une autre technologie. Oui.
Ces nanoparticules sont-elles sans risque ? Faut-il en avoir peur ? Nos experts font de la grande radio avec des tout petits éléments. Ça se passe jusqu'à 9h sur Radio Fribourg.
Radio FR, les experts.
Vous ne les verrez pas, les éléments dont nous parlons aujourd'hui dans Les Experts, déjà parce que c'est de la radio et aussi parce que les nanoparticules sont infiniment petites. Si vous n'avez pas de microscope électronique à la maison, inutile d'y aller avec la loupe, c'est un échec d'avance. Elles sont plus petites encore que les cellules de notre corps, on l'a dit. Alors on l'a entendu dans le lancement de cette émission, le regard que nous portons sur ces nanoparticules est quand même ambigu. Certaines sont porteuses d'espoir pour la science, alors que d'autres sont un danger pour notre organisme. Pourquoi ces nanoparticules peuvent-elles nous empoisonner, Katharina Fromm ?
Cela dépend. Comme pour tous les médicaments aussi, par exemple, ça dépend de la dose à chaque fois. Et là, effectivement, non seulement de la dose, mais aussi de la composition chimique, donc de quoi sont faits ces nanoparticules. Quelle est leur forme, quelle est leur chimie, et puis où est-ce qu'on va les mettre dans le corps, par exemple.
Oui, parce qu'elles peuvent entrer dans notre corps sans y être invitées de plusieurs manières possibles. Ça peut être par les voies respiratoires, par la bouche ou même par les pores de la peau. C'est tellement petit, ça rentre partout.
On peut s'imaginer que ça peut rentrer partout, mais prenons par exemple la crème solaire. Là, on a des nanoparticules de dioxyde de titane. Ça reste quand même à la surface de la peau.
On a beaucoup évoqué, Marc Pochard, les scandales des moteurs diesel truqués. Visiblement, c'est pas terminé. Maintenant, c'est toute la partie judiciaire du feuilleton. Est-ce qu'on est justement dans les nanoparticules avec ce que les moteurs diesel rejettent dans l'atmosphère ?
Il faut différencier. Les moteurs diesel sont très bons parce qu'ils produisent moins de nanoparticules. Ils ont des bons filtres et puis ils ont une combustion meilleure. La chose, d'accord, dans le scandale qui était évoqué, c'était qu'ils produisent des gaz toxiques. Et puis là, ils étaient moins bien. Alors, ce scandale-là n'a rien à voir avec les nanoparticules.
D'accord. C'est bien de le resituer, justement, parce que là, je pose vraiment les questions que monsieur et madame tout le monde est amené à se poser face à cette thématique. Vous l'avez compris. Oui, parce que justement, pour en rester peut-être dans les diesels, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de concret, il y a des filtres à particules qui se trouvent justement dans ces moteurs. Donc, tout ce qui est ces nanoparticules est filtrée. Il n'y a plus que des gaz qui ressortent, si j'ai bien compris.
Oui, certainement, il y a des technologies de filtre qui peuvent faire qu'il n'y a aucune particule qui sort. Maintenant, quelle voiture a quelle technologie implémentée, ça, je ne sais pas.
Ça, c'est très difficile à dire. Il y a quelques années, Katharina Fromm, le fléau, c'était l'amiante. Hein, on en parlait beaucoup. Ça attaquait les voies respiratoires. Est-ce que là aussi, par exemple, il s'agit de nanoparticules?
Il s'agit tout à fait de nanoparticules, cette fois-ci de provenance naturelle. Donc, c'est un minerai qu'on trouve dans la nature. Et ce sont des nanoparticules qui ont la forme de fibres. Et c'est ça qui était particulièrement dangereux ou difficile pour le corps à gérer, notamment dans les poumons, où ces nanoparticules étaient des fois trop grandes pour des cellules, c'est-à-dire traversaient en fait la paroi des cellules. Et donc c'est ça qui était dangereux et qui provoquait aussi donc, des problèmes de santé, entre autres le cancer.
Parce qu'on les inhalait et ça ne ressortait plus, en fait, ça commence à tapisser les parois des poumons, c'est comme ça que ça
donc
se passait.
Ça reste effectivement dans le poumon et puis ça blesse les cellules.
Les nanoparticules sont présentes le plus souvent à l'état gazeux, solide ou liquide dans le monde qui nous entoure?
Il y en a un peu partout. Il y en a dans les poussières. Et dès qu'elles sont assez petites, ces nanoparticules vont aussi aller évidemment dans l'air. Donc les nanoparticules sont naturelles. Il y en a qui sont autour de nous.
Est-ce que vous avez l'impression que dans ce studio de radio que vous pouvez voir autour de vous, bon, on va le décrire un petit peu à nos auditeurs, hein, ce sont des murs en maçonnerie, c'est un faux plafond, on a des petites mousses comme ça contre les murs pour éviter qu'il y ait des réverbérations sonores. Est-ce que là, par exemple, on a des nanoparticules qui volent autour de nous et que l'on risque d'inhaler? Voir si je fais un métier dangereux ou pas. Hein.
Il faudrait faire une mesure, mais...
Il faudrait vraiment une analyse.
Je dirais vraiment que les nanoparticules nous entourent dans la vie de tous les jours.
En titre exemple, on a un petit appareil avec lequel on peut mesurer des nanoparticules. Et puis on l'utilise de temps en temps pour regarder dans nos labos que nos collaborateurs ne sont pas exposés.
D'accord.
Et puis des fois, quand on ouvre la fenêtre, on compte beaucoup plus de nanoparticules que si on est dans un labo. Parce qu'il y a justement il y a des poussières, de la combustion.
Bon, je pense que laboratoire, on est quand même dans un univers peut-être un petit peu plus contrôlé. Hein. C'est désinfecté plus souvent, il y a des filtres, tout ça.
Il y a un autre exemple, c'est les gens, j'étais une fois dans une présentation et puis quelqu'un dit alors si vous fumez et puis vous craignez des nanoparticules, il faut sortir maintenant parce que vous fumez beaucoup plus de nanoparticules que ce qu'on pourrait jamais mettre dans l'environnement comme ça.
Le cancer est une des maladies qui cause le plus de décès de par le monde, hein, malgré les recherches phénoménales de la médecine, malgré les progrès, ça reste mortel. Est-ce qu'on a un ordre d'idée du nombre de cancers provoqués par ces nanoparticules, Marc Pochard?
Bon, après, les nanoparticules, c'est une taille. Alors, c'est pas seulement la taille, comme professeur Fromm a déjà dit, c'est pas seulement la taille, mais aussi la composition. Mais par exemple, dans les fumées, les cigarettes, il y a certainement des nanoparticules de carbone qui ne sont pas bons pour la santé. Il y a certainement un aspect nano dans ces maladies de cancer. C'est seulement le moment où le corps ne peut plus se défendre contre une inflammation et puis l'inflammation devient permanente. Là, il y a, je pense, des mécanismes de cancer qui peuvent se déclencher.
Et ces nanoparticules, Katharina Fromm, c'est où qu'on les trouve vraiment en grande quantité? J'ai lu, parce que je me suis quand même un petit peu documenté, hein, c'est un sujet qui m'était relativement inconnu, je dois le dire. Grâce à votre venue, ça m'a obligé à aller sur Internet et d'apprendre des choses. On va en apprendre encore beaucoup plus grâce à vous. J'ai l'impression que c'est quand même dans les cosmétiques qu'on en trouve beaucoup hein, de ces nanoparticules.
C'est juste.
Parce que pour que ces crèmes, par exemple, soient tellement douces qu'elles rentrent dans la peau, c'est à base de nanoparticules, dites-moi si je me trompe. Hein.
C'est souvent à base de nanoparticules. On utilise les nanoparticules comme porteurs, par exemple, de parfums ou de pigments. On prend les cosmétiques pour les yeux, par exemple. Donc, c'est fréquemment utilisé par les gens sans que les gens ne s'en rendent compte. Autre exemple, c'est effectivement l'utilisation des nanoparticules d'argent dans les vêtements pour stériliser, pour éviter les mauvaises odeurs ou contre la transpiration. Donc ça aussi, c'est une des applications où on peut les trouver. Et puis, finalement, si vous aimez, maintenant que l'hiver arrive, si vous aimez bien les bougies, vous allez créer des nanoparticules dans la suie des bougies aussi.
D'accord. Ah bah on en apprend des choses décidément avec vous, Katharina Fromm, Marc Pochard. On va faire une toute petite pause, une nanopause, si je peux me permettre ce néologisme. On va se retrouver juste après l'info pour la suite de cette émission. Les experts Café Scientifique aujourd'hui, on parle nanoparticules.
Radio FR. Les experts.
Et on parle nanoparticules avec Katharina Fromm du département de chimie de l'UNUFR, avec Marc Pochard, vice-directeur de l'Institut Adolphe Merkley. Alors on va en parler un petit peu, hein. Il s'agit d'un centre de recherche indépendant dans le domaine des nanosciences et des sciences des matériaux. Vos domaines de recherche touchent autant à la chimie qu'à la physique et à la biologie. On est vraiment au carrefour de ces trois sciences, hein, si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur Internet.
Oui, absolument. Disons, les nanotechnologies ou les nanosciences, ça touche toutes les disciplines de sciences naturelles, mmh. Parce que c'est une ordre de grandeur, ça joue un rôle dans toutes ces différentes disciplines.
Quelle est la nature de vos collaborations avec l'Université de Fribourg ? Ça dépasse de loin, évidemment, le cadre de notre causerie du jour. Hein. J'ai entendu que vous vous tutoyez tout à l'heure, vous connaissez bien, hein, déjà eu l'occasion de collaborer.
Oui. En principe, la seule différence entre notre institut et puis les autres groupes de recherche qui y a dans la faculté qui travaillent aussi sur le même domaine, c'est que nous, on a sous un toit les gens qui travaillent sur les différentes disciplines en même temps.
D'accord.
Mais, par exemple, Katharina Fromm fait certaines choses qu'elle pourrait aussi les faire sous notre toit. Alors, ça, c'est une question d'organisation, mais on a beaucoup de projets en commun, de sujets de recherche en commun, et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de collaboration.
Je crois que vous êtes les deux de formation chimiste à la base, hein, c'est juste. Katharina Fromm, j'imagine que plus on est pointu dans ce domaine de recherche, plus les sciences sont appelées à se côtoyer, chimie, biologie, physique, mathématiques, et j'en passe.
Tout à fait, effectivement, en tant que chimiste, si on est dans les nanotechnologies, on va automatiquement au-delà de la chimie. Mmh. On va collaborer avec la physique, par exemple, dans notre domaine des batteries, des développements de batteries, ou alors dans le développement des nanomatériaux pour la biologie, pour la santé, pour la médecine, en fait. Et là, c'est clair qu'il faut aller voir les experts d'à côté, entre guillemets, par exemple à l'AMI, justement, ou en biologie, en médecine ou en physique.
J'ai lu un petit peu votre CV, Katharina Fromm. J'étais impressionné par le nombre de parutions. Hein. Vous publiez à rythme effréné depuis, je crois, 1992, hein, vous me dites si je me trompe. Déjà, des parutions de votre part dans des revues spécialisées ou un petit peu plus de vulgarisation autour de ces nanoparticules, justement, quelque chose qui serait accessible à nos auditeurs.
Oui, alors, je vous donne un exemple. Mmh. Une application sur laquelle on travaille, ce sont l'amélioration des batteries.
Ouais.
Donc on va travailler sur les particules qui se trouvent dans les batteries pour les rendre plus petites et donc plus performantes aussi. Mmh. Parce que si on pense aux batteries ions lithium, les petits ions lithium peuvent plus facilement bouger dans une petite particule que dans une très grande particule où les ions lithium ont du mal à sortir. Donc, on a pu, par exemple, améliorer notre matériau de 20% pour améliorer la batterie de 20% et avoir une meilleure utilisation des ions lithium.
D'accord. Donc, peut-être plus de voitures électriques et moins de voitures diesel qui produisent ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà.
Exactement.
On est dans les applications concrètes. C'est très bien. Marc Pochard, il est écrit sur le site de l'UNIFR. L'Institut Adolphe Merkley mènera des recherches fondées sur les trois axes suivants. La recherche fondamentale, la recherche appliquée en collaboration avec l'industrie et la réalisation de mandats de recherche pour le compte des petites et moyennes entreprises. Pour autant qu'on ne soit pas dans le domaine du confidentiel, est-ce qu'il vous serait possible de nous citer un ou deux exemples de belles collaborations entre l'Institut et des privés, justement, que ce soit dans la région ou même plus loin ?
La seule chose qu'on peut normalement pas nommer, c'est les noms des entreprises, mais je peux vous
D'accord.
donner des exemples de domaines. Alors, par exemple, avec une entreprise qui est dans les implants, qui fait des matériaux pour les implants dentaires, un des problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils produisent des ciments pour fixer des dents artificielles. Et puis, quand
Comme les couronnes, par exemple.
Oui, par exemple. Mais s'il y a une solution qui n'est pas encore permanente, mais il faut encore la changer dans un mois ou deux mois, ces ciments collent trop fort. Pour les sortir de nouveau, ça fait beaucoup de peine. Alors, on a développé un produit avec une entreprise qui essaie de faire un ciment qu'avec un petit peu de lumière, on peut en principe décoller facilement.
Est-ce qu'il y a des collaborations dans le domaine militaire également ?
Nous, on a passé une charte éthique à notre institut. On s'est posé cette question. Est-ce qu'on veut collaborer avec le militaire ? Et puis, on a décidé que non, pour nous. Voilà, c'est une décision qui était faite chez nous. Voilà.
J'imagine que l'Institut et ses scientifiques tiennent à leur indépendance. On l'a remarqué, hein, vous ne voulez pas trop citer des noms d'entreprises, vous vous contentez de parler de domaines. Est-ce que ça ne devient pas délicat dès lors qu'on doit faire appel à des financements privés ? Parce que forcément, la question peut se poser. Hein.
On a des règles très strictes. Hein. On a, par exemple, une chose qu'on qu'on négocie toujours avec les entreprises, c'est qu'on peut publier librement. Alors, les entreprises ne peuvent pas influencer de quelle manière on publie les résultats. Mais sur l'autre côté, il faut aussi comprendre que les entreprises veulent avoir un avantage du marché contre leurs concurrents.
Forcément.
Ça veut dire certaines choses qu'ils n'aimeraient pas avoir dans la liberté ou dans parler à Radio Fribourg. Mais ce n'est pas qu'on a quelque chose à cacher, c'est seulement de leur garantir cet avantage dans le temps. S'ils ont investi dans la recherche, qu'ils peuvent aussi en profiter en mettant des produits sur le marché avant leurs concurrents.
Professeur Katharina Fromm, la question, je la pose à vous aussi. Là, on dévie peut-être un tout petit peu des nanoparticules au sens vraiment le plus strict du terme. Cette liberté de recherche qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer sur Radio Fribourg, c'est très important pour vous aussi?
Absolument. Donc, mon groupe se finance d'ailleurs principalement par des fonds du type fonds national. Et c'est clair qu'en tant que chercheur, on doit avoir cette liberté de choisir à quel moment on fait quel type de recherche et de ne pas se lier les mains avec des contrats qui vont que dans une certaine direction. Alors, souvent, justement, les industries cherchent à avoir une application. Ils ne veulent pas comprendre pourquoi une application fonctionne. Mmh. Alors que nous, à la base, on veut quand même savoir qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui se cache à la base de cette recherche.
Les nanoparticules sont au centre de nos préoccupations aujourd'hui sur Radio Fribourg dans Les Experts. On a été un petit peu pessimiste jusqu'à présent, enfin j'ai été un peu pessimiste, hein. J'ai aiguillé volontairement nos intervenants sur la partie qui fait peur, hein. C'est souvent le cas quand on ne connaît pas bien un sujet, ça c'est l'opinion publique, on est tous les mêmes, on a peur, mais nous allons voir que les nanoparticules peuvent être également très positives, et j'ai fait exprès de garder le meilleur pour la fin, je vais questionner nos intervenants là-dessus d'ici quelques instants sur Radio Fribourg.
Radio FR, les experts.
Nous en revenons à nos nanoparticules à proprement parler, après avoir dévié un petit peu sur d'autres sujets, hein, comme par exemple comment financer des recherches, hein, quand on est par exemple dans un institut comme Adolphe Merkley. Mes questions ont posé jusqu'à présent aussi sur le danger de ces choses infiniment petites, mais on va voir avec nos intervenants que les nanoparticules sont aussi porteurs d'espoir en médecine tout d'abord. Alors, en parcourant un intéressant article de l'INSERM sur le site français, hein, j'ai par exemple lu qu'avec la technologie des nanoparticules, on pouvait espérer reconstituer un tissu ou un organe particulier dans le corps humain. Qui c'est qui a envie de nous parler brièvement de cela? Soit Marc Pochard, soit Katharina Fromm. Katharina Fromm, allez-y, à vous l'honneur.
Okay. Je peux donner un exemple de ma propre recherche.
Volontiers.
Où on travaille entre autres sur l'argent. Alors l'argent, c'est un métal qui a des propriétés antimicrobiennes. Ça veut dire que c'est un métal qui peut tuer des bactéries qui peuvent, par exemple, générer des inflammations dans notre corps. Maintenant, vous savez peut-être que il y a de plus en plus d'implants qui sont insérés dans notre corps, par exemple une hanche artificielle, un genou artificiel.
Ça peut être une prothèse mammaire également.
Exactement. Ouais, ouais. Et ce sont des matériaux qui, eux, n'ont pas de défense naturelle contre les infections. Notre corps, par contre, il a le système immunitaire pour combattre les bactéries. Donc ce sont des matériaux artificiels qui sont très facilement colonisés par des bactéries. Alors pour lutter contre les bactéries, pour lutter contre justement les bactéries qui vont adhérer à ces surfaces artificielles, on utilise l'argent sous forme de nanoparticules d'argent qui sont très bien tolérées par le corps. Et donc on va en fait recouvrir ces matériaux avec notre argent pour le rendre antimicrobien dans le corps.
Les nanoparticules pourraient également améliorer la qualité des images obtenues dans la technique de l'imagerie. Donc l'imagerie, juste pour vous le situer, c'est quand on fait des radiographies, l'IRM et autres méthodes pour voir comment est l'intérieur de notre corps. Ça vous parle, ça, Marc Pochard? Évidemment que ça vous parle.
Oui, il y a différentes technologies qui sont utilisées, mais par exemple, il y a des agents de contraste qu'on utilise déjà aujourd'hui si on fait un MRI, à l'hôpital, ça c'est des nanoparticules d'oxyde de fer qui sont magnétiques. Et puis avec ceux-là, on peut faire des images assez pointues aujourd'hui.
Qu'en est-il du domaine des analyses biologiques maintenant, Katharina Fromm peut-être?
Alors on utilise de nouveau aussi des nanoparticules d'argent pour par exemple capter des molécules biologiques qui peuvent par exemple identifier certaines cellules cancéreuses ou autres, pour les capter et pour les identifier. Et effectivement, en présence de nanoparticules d'argent, on va mieux les voir que si on devait aller les chercher autrement, enfin par la méthode classique.
Vous pensez qu'un jour, les nanoparticules pourront peut-être guérir le cancer ? Ça peut paraître paradoxal, puisqu'on a vu que certaines autres nanoparticules pouvaient causer des maladies.
Les nanoparticules peuvent être, justement, par leur taille, utilisées à l'intérieur du corps. On pourrait, par exemple, les injecter dans le sang, et justement, c'est ce qui se fait aussi pour l'imagerie qu'on a entendue.
Pour une traçabilité, en fait.
Hein, exactement. Hein. Et on peut s'imaginer maintenant de charger ces nanoparticules avec des médicaments, soit à l'extérieur, soit on peut créer des nanoparticules creuses, des nanocontainers, à l'intérieur desquels on place aussi un médicament à livrer là où il y a le cancer.
On a beaucoup évoqué le domaine médical pour voir que ces nanoparticules peuvent être salvatrices. Marc Bochard, plus dans le domaine de l'industrie, vous voyez un domaine où ces nanoparticules sont particulièrement prometteuses?
Oui, un très bon exemple. On est passé des matériaux, par exemple, dans les avions, mais aussi dans les articles de sport, on est passé aux fibres de carbone. Alors, on a pu faire des matériaux beaucoup plus légers. Et puis ça, c'est des fibres microscopiques qui sont après faites dans des, je sais pas comment dire ça en français, garnet.
Donc sous forme de fil.
De fil, oui, de fil. Et puis après, on les met dans un matériel. Il y a le même principe qu'on peut utiliser avec des nanofibres, par exemple, qui préviennent du bois. On peut faire des matériaux qui sont très, très durs, qui sont très résistants et très, très, qui ont presque plus de poids. Et puis là, ce qui est aussi joli à voir, c'est le bois en lui-même contient des nanoparticules. Et puis une des propriétés du bois, que c'est un matériel de construction tellement bien, ça vient entre autres du fait qu'il y a une hiérarchie nanométrique dans ce matériel.
Vous qui êtes appelé à les manipuler quand même ces nanoparticules au travers de vos recherches, tant l'un que l'autre, vos collaborateurs, vos assistants, ma question peut paraître triviale. Est-ce que des fois vous avez l'impression qu'il y a quand même quelque chose de dangereux là-dedans, dans vos recherches, hein?
Alors une chose peut-être il faut aussi mentionner, à Fribourg il y a un centre de compétences nationales qui s'appelle des matériaux bio-inspirés. Et puis il y a justement des... Catherine Fromet dedans, il y a des collègues de la biologie, de la médecine ou de notre institut, et puis aussi de l'ETH Zurich et puis EPFL. Et puis ce qu'on regarde, c'est on essaie de apprendre de la nature, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes nano qui se trouvent dans la nature. Ça veut dire, la question est-ce que le nano est dangereux ou pas, c'est trop simplifié. Il y a beaucoup de choses nano qui sont dans la nature qui font qu'on peut vivre, et puis il y a certaines choses qui existent. Alors, il faut vraiment différencier. Il y a certains aspects qu'il faut regarder en détail. Et puis d'autres, il faut étudier, puis on peut en profiter.
Vous êtes confiant en l'avenir des nanoparticules, tous les deux, Catherine Fromet, par exemple, parce que c'est vrai qu'on en est qu'à ses balbutiements. C'est une toute nouvelle science, hein, vous êtes d'accord?
C'est une science relativement jeune, parce que ça ne fait pas si longtemps qu'on peut les voir.
Aussi, ouais. Il a fallu l'invention de ces fameux appareils, les microscopes électroniques, on en parlait tout à l'heure.
Et donc, ça nous donne maintenant beaucoup de possibilités pour générer des nouveaux matériaux. Et c'est clair que vu qu'on est à la pointe de la recherche, donc à la pointe du savoir, il faut prendre des précautions, parce qu'on ne sait pas encore comment vont réagir ces particules. Néanmoins, comme Marc l'a dit, on travaille en équipe avec des biologistes, avec les médecins, et on regarde justement en même temps quels sont les risques et quelles sont les chances, quelles sont les possibilités positives derrière ces nanoparticules. Et donc oui, je suis très très optimiste pour le futur que ça va avoir des grandes applications.
Voilà la note d'espoir avec laquelle j'avais envie que cette émission se termine, c'est magnifique. Les nanoparticules, c'est le sujet du prochain Café Scientifique de l'Uni de Fribourg. Rendez-vous mercredi prochain, nous serons le 20 septembre de 18h à 19h30 au Nouveau Monde à Fribourg. L'entrée est gratuite. Vous aurez, car c'est un privilège, le privilège de pouvoir questionner nos intervenants du jour, Catherine Fromet du département de chimie de l'UniFR. Merci beaucoup de vous être déplacé.
Merci beaucoup.
Et merci également à vous, Marc Bochard, vice-directeur de l'Institut Adolphe Merclé. D'autres intervenants seront également là. Tout se trouve sur les pages internet officielles, cela va de soi. Et cette émission se réécoute à partir de maintenant sur www.radiofr.ch.